Vous écoutez
RMC.
RMC.
Je me suis fait un défi avec mes amis. Il y a quelque chose à gagner, des patèques et des Rolex. Moi, je suis plus gaucher.
Et les pénaltys, vous ne tirez pas du droit?
Si.
Pourquoi?
Parce que je tire mieux du droit.
How is your English? Oui, non.
Ça, c'est le bonjour à Daniel Riolo aussi.
Jusqu'à minuit, l'after foot.
Simon Dutin.
Bonsoir à tous. Vous êtes au bon endroit. RMC, vous le savez, le temple du foot à la radio. L'after est là tous les soirs de l'année, même en été, évidemment. On est en direct jusqu'à minuit afin de débriefer notamment ce trophée des champions et la victoire, vous venez de la vivre, sur notre antenne de Lens. 1-0 face au PSG qui cède donc ce trophée qu'il remportait depuis 4 ans. On en parle avec vous, les auditrices, les auditeurs, et en compagnie de Maxime Chano, notre consultant qui est resté en studio, et Daniel Riolo qui nous rejoint. Salut Daniel.
Bonsoir les amis.
Bon, Daniel, surpris par cette physionomie de match, on aura l'occasion d'en parler.
Ben, je sais pas, tu veux qu'on fasse une intro maintenant? Tu veux qu'on procède
Non, évidemment, on a une heure pour en parler, même si on abordera d'autres sujets, je crois. Daniel, tu veux nous parler un petit peu de l'actu du côté de la 3F, on en reparlera d'ici minuit. En attendant, les auditrices et les auditeurs au 32-16, Adrien au standard, évidemment. On va reprendre les bonnes habitudes avec ce premier trophée officiel, parce que même pour un trophée des champions, voilà, l'important, c'est les 3 points.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Alors, Daniel, je commence par toi, parce qu'on a beaucoup entendu Maxime Chano, là, ce soir. Hein.
Il doit être fatigué, j'espère. Au minimum, il a vidé 3 petites bouteilles d'eau.
Hey, Daniel, quand j'entends ta voix, ça y est, je me réveille tout de suite.
À l'antenne depuis 20h, il est quasi 23, là, c'est une bouteille d'eau par heure, là, il est desséché.
Ouais, j'avais mon cadeau à 23h, tu vois, ton arrivée. Ouais, donc,
avec
t'inquiète pas, je vais te réveiller
j'ai
un petit peu.
Doute.
Alors, avec Jean Baumel, il y avait de la place quand même. Tes 3 points, ouais, Daniel.
Bah alors, puisque tu proposes les 3 points ce soir, eh bien, écoute, et que tu m'as posé une question, je vais m'en servir pour que ce soit le point 1. Oui, c'est une surprise, parce que de toute façon, à chaque fois que le PSG perd un match, c'est une surprise, et encore plus quand c'est un match qui offre un titre. Donc oui, c'est la surprise, c'est la défaite du PSG. Mais le point 2, c'est ce match absolument incroyable qu'ont livré les Lensois, une générosité folle. Et puis le point 3, si on a le temps de parler d'autre chose que de ce match-là, c'est ce qu'on commence à entendre à la 3F notamment, avec une ambiance qui devient pesante autour de Philippe Diallo et sa position vis-à-vis de la FIFA, Gianni Infantino, qui commence à lui être reprochée. Je pense que ça peut être un sujet dans les semaines et les mois à venir. Il va falloir être attentif, et je pense qu'on va ouvrir la porte ce soir.
On va pas
ouvrir les portes, toutes les fenêtres et tout, mais je pense qu'il y a matière à mettre un pied dans la porte ce soir.
Cette heure-ci, c'est fermé du côté du boulevard de Grenelle, mais on en parlera évidemment.
On va mettre un pied dans la porte.
Avec toi, d'ici minuit, Daniel. Tes 3 points, Maxime.
Bah écoute, des points similaires à Daniel. Alors moi, je commencerai pas par Paris Saint-Germain, mais plutôt par Lens, et les féliciter parce qu'ils ont fait un match exceptionnel. Je suis très très heureux pour tout le Racing Club de Lens, et surtout notamment par rapport à cette deuxième mi-temps. Vraiment, les Lensois qui m'ont impressionné, et malgré la vague de départ importante cet été, hein, vraiment Lens qui envoie un message à toute la Ligue 1. Il va falloir compter sur eux. Honnêtement, ils ont été incroyables. Donc bravo Lensois. Mon deuxième point, c'est Paris. On a plus l'habitude de voir des Parisiens perdre une finale, hein. Et c'est vrai que j'ai trouvé ce soir, les Parisiens en manque d'idées, notamment dans les 30 derniers mètres, et surtout dans la dernière passe, ils ont aussi manqué d'efficacité, mais surtout, je les ai trouvés, je ne sais pas, empruntés physiquement. Donc ma question, c'est de savoir si, lui, il faut blâmer Luis Enrique d'avoir choisi ce 11 titulaire, ou est-ce qu'il faut blâmer la Ligue d'avoir organisé ce match à ce moment-là, c'est-à-dire 4 jours après avoir joué la finale de la Super Coupe d'Europe contre Aston Villa. Et mon troisième point, bon bah, écoute, il faut en trouver un. Il y avait Zidane en tribune, il y avait des Lensois qui ont brillé, on parle souvent de Thauvin, mais quand je vois la prestation ce soir de Udol, la prestation de Gagnou, qui, on rappel, a décidé finalement de jouer pour l'équipe de France Espoir.
Je me dis que peut-être un pied dans la porte de la Fédé, toi tu veux mettre un lance de France.
En tout cas, je veux mettre un Lensois dans cette équipe, de France. En tout cas, Daniel, je ne serais pas surpris de voir 1, 2, voire 3 Lensois sélectionnés par Zidane sur son premier rassemblement au mois de septembre.
En tout cas, ça a donné, ça a galvanisé certains joueurs, ouais, Daniel.
Bah écoute, il a après tout, puisque Max a mis ça en point 1, et oui, commençons par le vainqueur. Je trouve que c'est une belle proposition de départ, puisque on avait pas mal parlé l'année dernière des Lensois, notamment de Udol, de Thauvin, qui a quand même été pas très très loin de revenir en équipe de France pour la Coupe du Monde. On sait que c'est toujours très difficile quand t'as été l'équipe surprise. Rappelons quand même qu'à un moment, on s'est même demandé si cette équipe ne pouvait pas être championne, parce que ça a commencé par la surprise, mais quand on est arrivé au mois de mars et que les Lensois étaient encore collés au PSG, oui, n'oublions pas qu'on s'est tous dit qu'il y avait peut-être une ouverture pour que ça arrive. Mais c'est toujours plus difficile l'année où tu as la Ligue des Champions, ça va être leur... Ça va être le cas cette année, dans deux semaines, après certains départs, changement d'entraîneur, de confirmer. Et eux, qu'est-ce qu'ils font dans le match d'ouverture de la saison? Alors, ça veut probablement rien dire, probablement qu'il ne faut pas évidemment s'enflammer sur ce que ça va donner, mais les valeurs qu'on voit dans ce match-là, la façon dont l'entraîneur a été remplacé, moi, tout de suite, ce qui m'a frappé, c'est le milieu de terrain. Ils ont perdu complètement le moteur de l'équipe, c'était le duo Sangaré-Thomasson. Mmh. Et là, ce soir, on a vu Titraoui. Alors là, bonjour monsieur, qui êtes-vous? Charleroi, avec l'Algérie, on vous a snobé. Moi, j'entendais dire pas mal de bien de ce joueur. Ok, très bien, encore une fois, bonjour monsieur, belle présentation, on a envie d'en voir plus, on a envie de vous connaître, donc venez. Donc j'ai vu lui, j'ai vu Cuisance. Bah, n'oublions pas ce qu'on pensait de ce joueur-là au début de sa carrière, après son passage à l'OM. Après l'OM, on l'a complètement perdu de vue. Et là, ce milieu-là, qui remplace ce qui était la zone forte de Lens l'année dernière, elle fait un énorme match contre le PSG. Donc, je rebondis sur ce que disait Max, sur certains joueurs qui, s'ils confirment encore cette année, oui, bien sûr, qu'il va falloir sérieusement en parler en équipe de France. Le gardien, lui, il est rentré. Udol, franchement, je ne sais pas combien de temps on va pouvoir encore l'ignorer au prétexte qu'il a été blessé ou que maintenant il n'a plus l'âge d'être un petit nouveau. Ou
d'autant qu'il y avait Digne en face qui lui a été, entre autres, préféré pour la Coupe du Monde. Ouais,
voilà. Digne, tu veux parler de celui qui sur le but
s'est
enrhumé? On en parlera, évidemment, on va avoir l'occasion d'en
rendre. En pensant que ça pourrait peut-être brouiller l'esprit de l'arbitre de touche ou de l'arbitre central. Non, là, sur ce qu'on a vu là, il n'y a même pas la moitié d'une photo entre Udol et Digne. Et si Digne est en équipe de France, oui, bien sûr qu'il va falloir se poser la question pour Udol. Non, franchement, les Lensois ce soir vraiment m'ont impressionné. C'est l'état d'esprit, c'est l'espèce de continuité par rapport à l'année dernière.
C'est ça, c'est la continuité.
L'effectif a quand même été bouleversé dans des zones importantes. L'entraîneur est arrivé. Et moi, quand je vois en tribune Jean-Louis Leca, Benjamin Parot, Joseph Ougourian, bah, c'est là, hein, souvent la clé.
Mais bien sûr, réussite, bien sûr, tous les jours.
D'un club, d'une équipe, d'une sélection, c'est la stabilité de l'équipe dirigeante, c'est surtout la
l'entente,
l'alignement des décisions. Là, on avait tout dans cette image. Hein.
Ouais, on parlait de synergie justement l'année dernière entre ces trois messieurs. Hein, tu l'as dit, Daniel, et c'est encore le cas cette année. Moi, ce qui m'impressionne dans ce Racing Club de Lens, c'est évidemment leur cellule de recrutement. Tu l'as dit, tu perds Sangaré, alors que tu vas encore une fois très bien, mais tu le perds. D'ailleurs, tu perds Thomasson, tu perds aussi Saint-Maximin, tu perds Malangsar, qui était le taulier de la défense avec Beidou. Quand tu regardes aujourd'hui la défense du Racing Club de Lens, il y a absolument plus personne. Gradit est blessé, Beidou est blessé et Malangsar est parti. Donc en fait, la manière dont Lens est arrivé à justement renouveler
Sauf
cette défense centrale,
patron.
Et derrière le nouveau patron,
Sauf
il s'appelle Gagnou. Ça, je pense qu'à un moment donné, il va falloir s'arrêter et en parler parce qu'il est incroyable, ce gamin. Bah, ça fait longtemps que j'en parle.
Tu parlais de Udol, ce petit jeune, de la même façon, lui aussi va frapper à la porte.
Ah, mais en tout cas, s'il frappe pas à la porte, c'est qu'il y a un problème du aux côtés de la fédération. Il a été énorme, il a été exceptionnel. Avec le ballon, sans ballon, ça a été le leader de la défense lensoise. Faut pas oublier qu'il est très jeune, qui s'est retrouvé sur le devant de la scène parce que justement, Gradit s'était blessé l'année dernière et derrière, il a pris sa chance et là aujourd'hui, c'est la pierre angulaire de la défense lensoise. Hein. Clairement, elle a été incroyable. Donc, tout ça pour un petit peu continuer mon analyse et compléter celle de Daniel. Moi, je suis vraiment impressionné sur ce Racing Club de Lens. C'est la manière d'arriver à se renouveler à chaque fois. Tu perds ton entraîneur. On pensait que c'était vraiment la clé du succès. Derrière, tu ramènes un Top Moller. Alors, certes, Top Moller qui joue un petit peu en 3-5-2 aussi du côté de Francfort, mais qui a l'habitude de jouer aussi avec 4 défenseurs. Je me posais la question, Daniel, comment Top Moller allait aligner son équipe? Est-ce qu'il allait justement essayer de faire une cassure par rapport à ce qui s'était passé avec Pierre Sage?
Non, parce que moi, je pense que justement, s'il a été pris, c'est après des discussions.
Exactement.
Où on a analysé sa façon de jouer pour que ça ne perturbe pas
c'est
les actifs.
Exactement.
Et qu'on ne change pas la façon de jouer, notamment des mecs de côté, comme Udol et Abdoulhamid, et que la plupart soient confortés dans ce qu'ils avaient déjà l'habitude de faire.
Et bien, tu as tout dit. C'est l'intelligence.
Ça, c'est très important.
C'est l'intelligence de Lens. Attention, je ne veux pas faire de comparaison, mais quand tu regardes très rapidement sur les deux projets là qui me viennent à l'esprit l'Olympique de Marseille, quand tu passes de deux Herbi à Bay qui joue complètement différent, ou par exemple le FC Nantes la dernière de Castro à Cantari qui joue complètement différemment d'un point de vue tactique, là au moins ils ont l'intelligence, ça, les mecs, de
ça,
se dire
des décisions qui sont pas nettes et qui sont
et ben voilà, et tu vois la différence
et
de résultats, tu vois la
c'est
différence
la même chose
de résultats
pour les joueurs, Max. Quand tu dis quand on parle de certains joueurs là qui sont arrivés, bon, l'éclosion de Gagnoux qui va confirmer, qui va probablement devenir le patron derrière, quand tu as des évolutions comme ça, quand tu as la confirmation de certains talents, c'est aussi qu'ils ont les moyens dans un certain contexte de s'épanouir totalement. Ouais. Ouais. Si Cuisance me refait plusieurs fois, et c'est normalement le but s'il a été pris, le match qu'il a fait ce soir, si Top Moller, qui l'a connu très jeune, le remet sur le devant de la scène, alors que ce joueur-là a eu, il a une carrière qu'à bosser.
Elle est à la cave complète. Hein.
Il est passé par le Bayern, quand même.
Voilà, il a eu une forme annoncée. Il était jeune espoir, il était annoncé comme un bon joueur. Après, on l'a vu à l'OM, ça a floppé. Derrière, ça a été la descente aux enfers. C'est quand même un mec qui a retrouvé la deuxième division. Si ce gars-là revient, alors que personne ne l'attend, parce que Jean-Louis Leca croit en lui, parce que Top Moller réussit à le relancer, c'est quasiment génial, en fait.
Alors, est-ce que Daniel, tu penses que
extrêmement favorable et ouais. un alignement de tout ce que tu as dit tout à l'heure des éléments de la direction, un joueur s'épanouit et ouais. son talent revit quoi en fait.
Bien sûr, et on a aussi le meilleur exemple avec le capitaine Thauvin. Alors attention, il avait fait une très belle saison du côté de l'Udinese, mais personne l'attendait à ce niveau-là.
C'est ce que j'allais te dire, c'est à mettre au crédit des dirigeants lensois, parce que il y a le pédigré d'un joueur. Mais il y a le flair, ce en quoi tu crois, parce que Samuel Vasselin, notre excellent producteur, qui connaît très bien la Bundesliga et toutes ses divisions, me dit, bon, il a pas fait une saison extraordinaire au Hertha Berlin.
Bon, Cuisance,
oui. Oui, bah, Cuisance. Donc il faut tenter le pari, parce que tu l'as rappelé, Daniel, Thomasson, Sangaré qui s'en vont, tu peux pas te rater pour les remplacer, quoi.
Tu peux pas te rater, mais ça a été le même cas, par exemple, si tu reprends un autre joueur qui s'appelle Hudson-Edouard. Quand il arrive l'année dernière au Racing Club de Lens, tu sais pas vraiment à quoi t'attendre. Il sortait quand même.
Ouais, c'est la création d'un contexte favorable à l'épanouissement des talents.
Et le meilleur exemple s'appelle Flo Thauvin. Et je disais un peu plus tôt, Daniel, j'avais écouté la conférence de presse de Thauvin d'avant-match où je l'avais trouvé très, je sais pas, très bien, très enjoué, très heureux. Moi, j'avais jamais vu un Thauvin comme ça. Tu sais, on sentait qu'il était au bon endroit. Et ça permet justement que lorsque tu as un contexte favorable comme le Racing Club de Lens, un club familial, et ben, aux joueurs de s'épanouir. Et je pense que c'est ce qui manquait à Thauvin justement pour arriver à son plein potentiel. Attention, il a fait des très bonnes saisons du côté de l'Olympique de Marseille, mais c'est vrai que depuis son passage au Mexique, c'était quand même relativement plus compliqué. Et en fait, c'est le cas avec Thauvin, Hudson-Edouard, avec beaucoup de joueurs. Et lorsque tu ramènes des nouveaux joueurs, comme a dit Daniel, type Cuisance, où tu te dis ça va pas fonctionner, et ben direct les mecs arrivent dans le moule et ça marche.
Mais d'autant que Thauvin, il y a quand même toujours la force de l'émetteur et un effet de loupe, parce que encore une fois, qu'est-ce qu'on n'aurait pas entendu si Thauvin ça avait été un flop? On aurait dit mais il était fini, comment?
Après, c'est le risque, bien sûr. Mais Thauvin,
c'est le risque,
peut-être que ça fonctionne.
Le risque qu'il
est encore plus
grand. Ce que je veux dire, c'est que quand c'est le
ce que tu dis, ça s'appelle le choix d'une politique sportive. Évidemment, de toute façon, c'est toujours le jeu. Quand tu prends des décisions et que la décision s'avère mauvaise, bah t'es critiqué. Mais à un moment, il faut bien qu'il y ait un homme qu'ils apprennent la décision, et leur position à eux, elle est plus compliquée que la nôtre, puisque nous ne sommes avec humilité qu'observateurs. Donc t'arrives et puis tu dis ah bah c'était une bonne décision ou c'était pas une bonne décision. Alors le mieux, c'est aussi d'essayer de comprendre pourquoi c'est une bonne décision. Je pense que vous avez tous regardé le doc qui dure quand même 2 heures, qui est excellent, sur Lens et la saison dernière, qui démarre en juin 2025 jusqu'à la fin de la saison, là les Charbonneurs, et on fait connaissance finalement avec toute cette cellule de recrutement, avec la façon de travailler et la façon dont les joueurs sont, comment dire, mis dans des dispositions favorables à leur épanouissement. Et là, moi, cette année, quand je les vois jouer et faire ce match-là ce soir, sans présager en rien de ce qui peut advenir cette année, je me dis que tu ne peux pas avoir cet état d'esprit sur un match pareil, tu ne peux pas autant donner, tu ne peux pas encore une fois être généreux comme tu l'as été toute la saison dernière sans que ça continue. En fait, il y a pas de raison. Le seul, ça c'est toujours l'inconnu, la seule difficulté qu'il va falloir gérer, c'est la présence de cette Ligue des Champions.
Ah, l'enchaînement des
matchs au milieu de semaine. Mm-hmm. Quand tu as ce match au milieu de semaine qui peut broyer les têtes, parce que cette compétition, elle est comme ça, elle focalise l'attention, elle fait parfois péter les câbles à certains joueurs qui ne contrôlent plus leur corps, leur concentration. Un bon match en Ligue des Champions, c'est des sollicitations dans tous les sens. Et je sais qu'ils l'ont vécu il y a 2 ans. Et que justement, ça les avait bien mis dans la merde à Lens, et que pense qu'ils se disent maintenant on est outillés, on est armés pour pas refaire les mêmes erreurs. Je pense que bien sûr qu'ils vont énormément bosser là-dessus, mais c'est la seule inconnue. Ça c'est toujours très délicat parce que ok, tu peux dire on va prioriser le championnat, la Ligue des Champions, de toute façon que tu qu'on y fasse, on sait très bien qu'on n'est pas là pour gagner. C'est un peu toujours le discours des équipes de Ligue 1. Mais en fait, que si tu gagnes un match, deux matchs, que t'as un calendrier qui est un peu favorable, que tu t'as pas un menu là, tes 8 matchs ils sont pas hyper durs, bah d'un coup ah bah tiens si on allait en 16e, ah bah tiens si, et ça c'est super dur à gérer. Ça c'est très 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 difficile. Mais sinon pour le reste, je m'inquiète pas pour Lens, hein. Là, ils sont encore top 5 à ce rythme-là. Je vois pas ce qui peut leur arriver. Ils vont pas s'écrouler quand même.
Et peut-être que certaines erreurs, en tout cas qualifiées de telles, auront été retenues parce que on a vu une petite différence dans la politique de recrutement. Il y avait des gros investissements pour affronter la Ligue des Champions. On se souvient du prix du transfert d'un Eli Wahi, par exemple, qui s'était révélé un échec. Justement, je pense qu'on a retenu, les erreurs du passé. Lens qui remporte donc le trophée des champions, victoire 1-0 au Stade Bollard face au Paris Saint-Germain. On continue d'en parler dans un instant avec Daniel Riolo, Maxime Chano et vous qu'on attend en nombreuses et nombreux au 32-16 comme Marco, qu'on va faire patienter quelques instants. 1 minute 29 pour être précise. L'after revient tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Simon Dutin.
Accompagné ce soir par Daniel Riolo et Maxime Chano, l'after, comme tous les soirs de l'année, est bien présent en été. On débriefe le trophée des champions et la victoire du Racing Club de Lens, 1-0 face au Paris Saint-Germain, qui abandonne donc un trophée qu'il remportait chaque année depuis 2021. On en parle avec vous, les auditrices, les auditeurs, et notamment Marco, qui a fait le 32-16, qu'on est ravis d'accueillir dans l'after. Salut Marco.
Merci messieurs de m'accueillir.
Merci pour ta patience, merci de vouloir participer à notre débat. On t'imagine heureux en ce soir d'été avec cette première victoire dans l'histoire du Racing Club de Lens dans ce trophée des champions.
Ben écoutez, on va de surprise en surprise avec le Racing. Franchement, depuis époque Franck Haise, l'année dernière, on nous voyait milieu de tableau, voire fin de tableau. On joue la Ligue des Champions, on gagne la Coupe de France, on vit des émotions incroyables.
C'est une surprise vraiment pour toi avant le début de la rencontre? Oui, tu étais persuadé que Paris allait gagner sans problème?
En face Paris, grosse filadrée, meilleure équipe du monde. Ils ont encore prouvé il y a 2-3 jours en finale de Super Coupe d'Europe. Voilà, nous on a la Super Coupe de France, ça nous convient très bien.
c'est vrai qu'on l'appelait comme ça avant.
Voilà, nous on reste à notre place avec nos valeurs, avec notre public en feu encore, c'est incroyable. C'est magnifique pour le Racing, voilà, moi je suis un enfant du Racing, je suis juste heureux ce soir et je vais pouvoir chambrer mon chef toute la semaine et voire toute l'année, ouais, je pense toute l'année là.
Marco, content des recrues que tu as vues ce soir, notamment Cuisance et Titraoui, les deux milieux défensifs. On a dit un peu plus tôt que vous aviez perdu la lampe de rancement avec Sangaré et Thomasson. Là, c'est deux nouveaux joueurs qui arrivent. Comment tu les as trouvés, toi?
Je les ai trouvés en jambes. Je les ai trouvés avec un état d'esprit collectif et ils s'encourageaient les uns les autres. Et on a l'impression qu'ils se connaissent depuis des années. Ça fait plaisir. On sent qu'il y a un capitaine qui rallie tout le monde. Flotova, dans la continuité. Grand match, homme du match. Voilà. Les vraies valeurs du Racing, en fait, on s'appuie sur de l'ancienneté avec de la jeunesse. Gagnou derrière, il est incroyable. Il continue sur la même lancée. Bah, que dire? On va peut-être sortir quelques jeunes du centre, depuis le temps qu'on espérait ceux-là depuis Varane. On commence à les sortir tout doucement. Le travail paye à Lens. On s'appuie sur ce qu'on a, on développe notre centre. Que dire de plus? On est juste ravis, quoi. Pourvu que ça continue, on est avec des champions qui arrivent, des matchs de feu à Bollard. Bah, pour nous, ça roule, quoi. Tout va bien.
Bon. Le changement d'entraîneur, comment tu l'as vécu?
On a toujours un peu peur.
Ce coach-là, on le connaissait pas, donc t'as pas eu encore de possibilité de t'attacher à lui. Mais après un match comme ça, tu te dis, tiens, on a peut-être pris quelqu'un qui est dans la parfaite continuité de ce qu'on avait, non?
Je pense que les choix sont bons. Il y aura des couacs, hein. On aura des déceptions, des joueurs un peu moins bien qu'on aurait cru peut-être meilleurs. Mais je pense avec des vraies valeurs, on pense à l'essence même du football, les bases, la simplicité, le jeu, le plaisir, le collectif, la joie. En fait, c'est les bases du football. On revient en fait à la base et je pense que le football devrait prendre exemple sur le Racing Club de Lens. Hein. Quand on voit des équipes comme Chelsea qui balancent des 200, 300 millions et qui arrivent à rien, bah écoutez, moi je suis bien content d'être supporter de Lens, hein. Et j'espère que ça va continuer comme ça. On travaille bien, donc j'ai envie de nous dire une grosse merde pour la saison à venir et que le plaisir à Bollard continue.
Avec peut-être.
Oui, c'est sûr que quand il y a des choses comme ça, quand il y a un club qui est dans ce genre de moment-là, finalement, on s'aperçoit qu'il n'y en a pas tant que ça, si tu prends toute l'Europe. Il n'y a pas tant de clubs que ça qui font à ce point kiffer leurs supporters. Bon, bah, votre adversaire du soir, ce soir, il a peut-être perdu. Il n'empêche que depuis deux ans, tu trouveras pas un supporter du PSG pour ne pas kiffer sur ce qui est fait. Surtout qu'il y a eu 10 ans de gestion très aléatoire et que maintenant, depuis 3-4 ans, la gestion est tellement nickel que c'est un club qui est double champion d'Europe. Donc, on avait là, face à face ce soir, deux clubs qui sont quasiment des exemples. Le PSG pour les clubs qui ont beaucoup d'argent et Lens pour les clubs qui n'ont pas trop d'argent. Mais c'est on avait deux clubs, on a deux clubs ce soir là dans ce trophée des champions qui était bien plus intéressant que le Community Shield.
Largement.
Si vous l'avez regardé cet après-midi, mais pour le coup, on peut fanfaronner un petit peu. Mais notre match d'ouverture de la saison était plus intéressant que celui en Angleterre. Ouais. Mais en tout cas, oui, c'était deux clubs qui, dans leur catégorie d'oseille, on va dire ça comme ça, peuvent être des exemples. Et il y en a pas tant que ça en Europe qui font kiffer leurs supporters en ce moment.
Exactement. Bah, je pense que ça peut faire du bien si on peut avoir quelques droits télé. Quelqu'un qui veut nous sponsoriser.
Oui, mais ça, malheureusement, malgré tout, tu sais que même l'année dernière, c'était bien la Ligue 1, mais les diffuseurs, ils viennent pas. Hein. Ça continue de pas venir.
On essaie. On propose quelque chose à Bollard, si ça les intéresse.
Il y en a un diffuseur, il s'appelle Ligue 1 Plus. Faut juste prendre l'abonnement, quoi.
Bah, c'est ce qu'on fait, mais malheureusement, les dividendes sont pas très bonnes. Surtout pour les petits clubs comme Lens.
Après, juste un petit point d'interrogation pour Marco, pour Daniel, parce qu'on a parlé justement de ce calendrier qui va être chargé cette année pour le Racing Club de Lens avec cette Champions League et la Ligue 1. Quand tu regardes un petit peu leur effectif, et notamment derrière, je ne sais pas ce que tu en penses, mais avec la blessure de Beidou, avec un Celic qui est aussi blé, des Beidou qui est blessé jusqu'en octobre, il me semble. Gradit qui revient
d'une grosse blessure. Il y aura frais au moment où il y aura beaucoup de matchs.
Ouais, mais bon, tu sais dire que ça te laisse avec trois vrais défenseurs, Antonio, Gagnou, Loiroki. Comment ?
Il y aura certainement une recrue.
Donc la question, c'est de savoir, est-ce que tu penses, Daniel, Marco, que des recrues sont à attendre du côté du Racing Club de Lens? Parce que je vois mal, en tout cas, Lens jouer pendant 6 mois avec seulement ces trois gamins, d'autant plus que c'est quand même des jeunes.
Je ne les vois pas mettre beaucoup d'argent pour prendre un joueur qui, de toute façon, ne sera pas devant les deux qui sont là. S'il y a un blessé, je les vois plutôt essayer
d'aller on a fait comment l'année dernière
au centre.
On a été voir au centre La Gagnette, et puis on a vu un petit Gagnou émerger, un petit Antonio. Il fait une erreur ce soir qui, pour moi, ne mérite pas rouge, mais après, c'est que mon avis.
On peut s'arrêter là-dessus, si on pouvait en parler deux secondes, parce que ça, c'est mon combat depuis un an.
Parlons-en, on a eu pendant
la Coupe du Monde ce que j'attendais depuis longtemps, c'était un arbitrage parfait. Alors certes, certains ont trouvé beaucoup de laxisme dans certains matchs, alors forcément c'était les matchs qui nous concernaient, parce que c'est toujours pareil, quand t'es depuis ton balcon, ça te concerne toujours un petit peu plus, donc je parle des matchs de l'équipe de France contre le Paraguay notamment, mais si tu prends globalement, il y a eu plus de 100 matchs, on a vu un arbitrage qui laissait beaucoup jouer, qui sanctionnait peu les contacts, et où on a eu très peu de cartons rouges. Moi, je vais redire ce que je dis depuis un an, peu importe l'équipe, puisque moi, je trouve que les deux cartons rouges ce soir sont stupides. J'en aurais donné aucun des deux. Alors certes, le geste, il est dangereux, le premier tacle sur Akliouche, j'ai bien compris. Mais on ne peut pas tomber dans un automatisme crétin qui consiste à chaque fois qu'on voit l'image du pied genre au-dessus, c'est quoi la règle, c'est au-dessus de la cheville, c'est ça, c'est à peu près
c'est surtout parce qu'il arrive
bien quand même,
ouais, voilà. donc il y a contact et tout, et on me dit ouais, tu veux qu'il lui déboîte la jambe pour ceci pour cela, mais s'il lui déboîte la jambe, eh bien le gars il prend une sanction équivalente à l'indisponibilité du joueur. Voilà, ça m'intéresse comme disposition. Mais si le mec à Cliouche en l'occurrence, je suis pas aveugle, je suis pas débile, je vois très bien que c'est une faute dangereuse.
Ce que tu veux, Daniel, pour qu'on comprenne bien, c'est que on attend. Si le joueur sort blessé, il y a quoi? Il y a exclusion. Si le joueur continue le match,
j'aime l'idée. Ça porte bien son nom. Le carton jaune, c'est un avertissement. Donc, il fait une faute comme ça. Je lui mets un avertissement. Je lui dis, voilà, je parle français clairement. Je t'avertis, mec. Ce genre de faute, ça ne se fait pas. Il l'a refait. C'est un deuxième avertissement. Là, oui, tu prends le rouge. Mec, je t'avais averti, t'es vraiment débile. Je te l'avais dit, fais pas de faute comme ça. Bon, s'il est assez bête pour la refaire, là, ok, tu sors. Mais le carton rouge direct pour ce genre de choses-là, sans l'avertissement préalable, alors que le joueur est pas blessé et 5 minutes après, Kliouch, il n'y a pas de problème, il court. Ben là, je ne vois pas pourquoi une équipe serait réduite à 10.
Mais moi, je suis sensible à cette proposition parce que je trouve qu'il y a un peu trop d'eau.
Parce que quelque part, ça flingue. Ça met le match dans une autre disposition tactique. Alors, à l'arrivée, Lens gagne, ça fait héroïque, la deuxième mi-temps, ils sont là, ils défendent, ils se replient, machin, suisse, cela. Mais Bon, reconnaissez que de toute façon, ça ne donne pas le même match.
Bah, bien sûr, à chaque fois, ça tue le spectacle. Voilà. Et là où t'as raison.
Là, ce soir, ça l'a pas tué parce que le match a été spectaculaire malgré tout. Ouais. Mais la plupart du temps, ça enlève quand même une vraie dimension.
Mais bien sûr, et on l'a vu cette année, la saison dernière en Ligue 1, Daniel, à chaque fois qu'il y a des cartons rouges.
Et Nuno Mendes, c'est pareil.
Ah non, par contre, là, je suis pas d'accord avec toi. On l'a revu celle-ci. Il lui met un coup de coude dans le nez. Alors certes, c'est une faute de frustration. Il y a une petite faute à la base du joueur lensois, mais non, celle-ci, c'est une faute d'anti-jeu.
Celui-là, Max, je veux bien. Je ne sais pas comment l'analyser parce que j'arrive pas à savoir si vraiment il y a vraiment geste, genre en gros, dégage, je te mets un coup de coude dans la tronche.
Écoute-moi, je l'ai revu là encore, juste avant, et je te cache pas qu'elle est quand même, elle est grossière comme faute. C'est même surprenant de la part de Nuno Mendes, mais ça montre aussi un peu la frustration. Et là, je te rejoins, Daniel. Elle est
là, c'est pareil, c'est un avertissement. Refais pas un truc pareil, pas rouge direct.
Ça va être dur à vendre, ça.
Ou en tout cas, tu peux déjà, je sais pas, peut-être avertir.
C'est dur à vendre, sinon à la Coupe du Monde, on n'a pas eu des cartons rouges. J'ai l'impression que j'en ai presque pas vu pendant la Coupe du Monde.
Et là, c'est vrai, quand tu regardes un petit peu la manière dont les arbitres ont arbitré à la Coupe du Monde, qui ont justement laissé un peu le jeu, ça a laissé énorme, mais ça a donné du rythme d'ailleurs à cette Coupe du Monde.
Non, mais t'as vu le but qui est refusé au Lensois ce soir, parce que l'autre, il laisse pas jouer. Il est tellement pressé de sortir ses cartons. On a l'impression qu'il a les mains qui sont collées à la poche.
Ça, c'est vrai. Et déjà, juste pour compléter.
Tellement il est pressé, comment il s'appelle cet arbitre? En plus, lui, il est coutumier du fait, là. Mais lui, c'est quoi? C'est un flic dans la vie, c'est un policier. J'ai l'impression que le mec, il veut mettre une amende immédiatement.
En tout cas, pour compléter ton analyse, tu sais, moi, une fois, je me prends un tac et je fais un tibia péroné, je reste bloqué pendant 6 mois. Et en fait, le joueur, il avait pris carton rouge et 3 matchs après, il était revenu sur le terrain. Ce qui était complètement. Finalement, c'était pas logique, tu vois. C'était moi qui étais pénalisé de l'erreur que lui avait fait. Donc, je suis d'accord avec Daniel. Je pense qu'il y a quelque chose à remettre peut-être en considération, c'est-à-dire peut-être les sanctions des joueurs qui blessent les autres joueurs. Parce que sinon c'est trop facile.
Oui, mais alors moi je suis sensible. Je suis sensible à la proposition de Daniel et je trouve qu'en effet il y a un petit peu un abus dans l'automaticité des sanctions. En effet, dès que t'as la semelle contre le tibia. Certes, le seul problème c'est dans l'application parce que parfois tu vois un joueur qui continue pendant 20 minutes et puis qui sort à la mi-temps parce que à froid il peut pas poursuivre. Et je pense qu'il y aurait des difficultés parfois.
Il y a toujours une réserve à tout règlement. De toute façon, tout règlement mérite une réflexion. Ce que tu dis n'est pas faux, mais il y a quand même un côté systématique au rouge direct en Ligue 1 qui est insupportable. Matchs, tu vas le voir dès la première journée, le nombre de cartons sortis dans les premières 20 minutes, mais ça change tout, quoi. Ça change tout à une rencontre.
Les arbitres français manquent de sensibilité un peu, Daniel.
Et tout ça. Mais nos arbitres, ils font ce que disent les règlements au début de la saison. Ils sont tous réunis dans une pièce, t'as un mec qui arrive avec comment ça s'appelle là, les
PowerPoint. Les trois quarts s'endorment. Mais...
Voilà, avec le patron des arbitres là, c'est qui? C'est toujours Gauthier là, le patron des arbitres. Je sais même plus qui c'est le patron des arbitres. Enfin bon, voilà, à chaque fois il donne ses petits cours et puis les mecs derrière ils appliquent comme des bons élèves. Pff, mais là le Pignard lui à chaque fois.
Bon.
C'est bien
pire. Les amis, Luis Enrique, l'entraîneur parisien en conférence de presse en direct sur RMC.
Les actions qu'on a en attaque. Pour moi, à mon avis, les rythmes et les situations de jeu ont été très positifs. Je suis très content de ce que j'ai vu pendant tout le match. Spécialement le premier mi-temps, je pense qu'on a contrôlé les matchs. Et si je me rappelle ce que ça s'est passé les dernières années, je pense que c'est l'année que Lens a créé de moi. Et je suis content de... Ce n'est pas des résultats, évidemment, mais je pense qu'on a mérité de plus. Mais en ce moment, je dois féliciter Lens, ils ont gagné, ils ont joué très bien avec l'intensité habituelle. Mais je me répète, ce que j'ai vu, j'aime bien ce que j'ai vu et de la manière que l'équipe a joué.
Bon, voilà, Luis Enrique, en tout cas, qui n'est pas fâché contre ses joueurs. Fair play, il félicite les Lensois.
Dans ce qu'il dit, Lens, d'habitude, enfin, il a analysé les derniers matchs en disant ils ont créé plus, machin. Oui, sauf que n'oublie pas quand même qu'ils ont joué à 10, quoi. Donc, forcément, c'est plus difficile de créer quand t'es un joueur de moins. Maintenant qu'ils soient satisfaits du rythme, ouais, moi, je les ai pas trouvés mauvais. Les Parisiens, ce soir, c'est plus dans la finalisation des actions, la concrétisation, où là, ils ont été, extrêmement décevant. On a vu un Dembélé peut-être en faire un petit peu trop à partir du moment où il est entré. Il a raté une occasion, c'était Dembélé 2024 et avant. C'était l'ancien Dembélé.
Ouais.
Beaucoup de maladresse dans la finition des actions du côté du PSG, mais pour le reste, dans le jeu et dans l'état d'esprit, on a le PSG qu'on a l'habitude de voir. Là-dessus, je suis d'accord avec le coach parisien. En revanche, quand tu dis que les Lensois, on peut créer, bah oui, un joueur de moins, forcément, tu crées un peu moins. Déjà, contre le PSG, c'est très difficile.
Ah ouais, c'est ça.
Si t'as un joueur de moins, c'est un peu bizarre comme reproche qu'il leur fait.
En tout cas, Lucien Riquet nous a parfaitement teasé le débat qui nous attend. Je remercie Marco d'avoir fait le 32-16. On va se quitter quelques instants. Et dans un instant, avec Daniel et Maxime, on va se pencher quand même sur ce Paris Saint-Germain. Vous venez de l'entendre, Lucien Riquet, satisfait du contenu, pas forcément du résultat. Il est fair play. Il félicite les Lensois. On va quand même voir si ce Paris Saint-Germain n'aurait pas pu faire un petit peu mieux. On en parle tout de suite dans l'after, vous ne bougez pas.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Simon Dutin.
On débrief la victoire de Lens dans le Trophée des Champions. Victoire 1-0 ce soir au stade Bollard. Florian Thauvin, désormais capitaine du Racing Club Lensois, qui a inscrit le seul but de la rencontre sur une frappe un petit peu manquée de Oudol qui s'est transformé en centre. Maxime Chano, Daniel Riolo, et vous les auditrices, les auditeurs, venez échanger vos impressions autour
c'est
de cette rencontre.
C'est pas une passe décisive d'Oudol.
Ah bah c'est si dans les stats, mais bon.
Volontaire ou pas, c'est la vraie question.
Paraît que dans les stats, ça va finir en passe décisive.
Ah bah ça, Daniel, là
on n'est pas une absurdité près quand même.
Oui, bah c'est comme
tu sais, c'est dans le commentaire.
C'est une frappe décisive, on va dire.
Frappe décisive, voilà. Parce que désormais, la passe décisive, il suffit de donner le ballon à un mec qui touche.
C'est logique ça, c'est
pas décisif.
Maintenant, passe décisive, tu peux faire une passe décisive à un mec qui est encore à 30 mètres du but, qui dribble deux joueurs et
là, Thauvin, il a juste à la pousser au fond des filets.
Mais c'est une vraie passe décisive, je suis d'accord avec toi.
Une passe décisive involontaire, mais c'en est une.
C'était à la 32e minute, Florian Thauvin qui a été élu homme du match.
C'est pas ni volontaire ni involontaire, c'est pas une passe décisive, puisqu'il n'y a pas d'intention. S'il n'y a pas d'intentionnalité, ça ne peut pas être une passe décisive, voyons les amis.
Bien sûr, c'est la passe qui te permet de marquer un but, donc elle est décisive cette passe-là.
C'est comme quand tu tires un corner. Si sur le corner tu vises pas quelqu'un, il y a pas l'intention, ça peut pas être décisif, ça peut pas être une passe décisive.
Eh ben tu peux tirer le corner les yeux fermés, crois-moi, s'il y a un but après sur cette frappe là, c'est le tireur de corner qui est passeur décisif.
On veut de la statistique.
Oui, non mais il est passeur décisif pour les statisticiens.
Alors, peut-être sans faire exprès.
Mais j'en ai rien à cirer moi de ça. Pour moi, un passe décisif, c'est quand tu veux réellement faire quelque chose.
Ah d'accord.
Bon, bien sûr, quand t'as l'intention. Si t'as pas l'intention, tu fais quoi?
En tout cas, l'histoire statistique retiendra que Mathieu Hudol est passeur décisif sur lui qui met tellement de caviar de centre tout au long de la saison. Bon, il en a donné un à Thauvin et lui homme du match, je le rappelle. Sous les yeux de Zinedine Zidane.
Si je fais tomber un billet de 50 balles par terre, je ramasse un quart d'heure après.
Ah bah je peux te dire merci Daniel. Moi,
mais
je
j'ai pas eu l'intention de te le donner, donc c'est pas, je t'ai pas donné l'oseille.
En revanche,
si je viens te voir et que je te le donne, bah là c'est une belle intention. Ouais,
Daniel, que tu le perdes ou pas, je te le ramène dans tous les cas. Sache-le.
J'attends de voir. En tout cas, maintenant qu'on a salué la belle performance lensoise, on va quand même se pencher un petit peu sur le match du PSG qui a bien attaqué. Maxime, on a suivi la rencontre ensemble, qui a fait une...
On en a parlé juste avant, si
vous... Une grosse demi-heure. Daniel, mais bon, c'est histoire de mettre en lumière un petit peu ce que le PSG aurait pu faire de différent.
Je vais aller un petit peu à contre-courant. Alors, j'ai commencé mes trois points en mettant Lens en avant les premiers, parce qu'ils ont gagné ce match-là, et il faut donner énormément de crédit aux joueurs de top baller. Mais si tu regardes un petit peu, je vais me faire l'avocat du diable, et je sais que je vais me faire tomber dessus, et Daniel sûrement le premier, le Paris Saint-Germain n'a pas fait un mauvais match, et notamment sur cette première mi-temps. Quand tu regardes, j'ai presque envie de te dire que Lens...
dire qu'ils n'ont pas fait un mauvais match, pourquoi tu veux que je te
tombe dessus? Non, mais ce que je sais, en règle générale, tu vas dire Max, t'es toujours Max, à contre-courant, mais la réalité...
Si t'as envie de t'inventer un dessin de victime, tu peux, mais en l'occurrence,
mais je sais que t'es toujours très dur avec moi, Daniel, c'est pour ça, j'anticipe. Non, je voulais dire que en règle générale, j'avais trouvé le Paris Saint-Germain quand même intéressant sur la première mi-temps, parce qu'en fait, moi, j'avais fait un avis hier en disant que je pensais sincèrement que les Parisiens allaient rouler sur le Racing Club de Lens, et notamment par rapport à ce que j'avais vu sur les 30 dernières minutes contre Aston Villa, où j'avais trouvé les Parisiens physiquement prêts, même si la préparation avait été tronquée. Bon, finalement, quand je vois les 40 premières minutes, malgré le but qui est finalement un petit peu à contre-courant, parce que c'était sur une grosse domination parisienne, j'ai trouvé les Parisiens intéressants. ils ont fait le taf, malheureusement, et c'est là que moi j'ai envie de les blâmer, c'est cette deuxième mi-temps, la mentalité avec laquelle ils sont rentrés sur le terrain. Je pensais sincèrement que Luis Enrique allait faire pas mal de changements, et finalement lui qui d'habitude trouve toujours des solutions, là ça n'a pas été le cas. Alors après tu pourras coupler à ça les problèmes physiques de certains joueurs, la mentalité de d'autres. Encore une fois, moi je suis vraiment pas rassuré par un Zabarni qui a quand même pas fait une fois un grand match, même s'il a perdu du poids, même si certains me disent que c'est l'année de la rédemption et qu'il allait rafuter et que ça va aller.
Et que tu l'as trouvé pas mal, tu l'as souligné en cours de match, tu nous as dit que c'était
je l'avais trouvé pas mal sur la première mi-temps, sur la deuxième mi-temps.
Oui, sauf que là cette année on pourra pas se contenter d'un pas mal le concernant.
Oui, bien sûr.
Autant j'arrive, il faut que je m'habitue, machin. Ok, très bien. Et puis de toute façon, t'es pas titulaire dans les grands matchs, c'était pas toi. Ok. Maintenant cette année, il a fait beaucoup de matchs l'année dernière, mais cette année on pourra pas se contenter de Zabarni, c'est pas mal. Sinon ça veut dire que le pas mal n'a rien à faire au PSG. Un pas mal n'a pas à être là. Beraldo, c'est la même chose. On a bien compris maintenant qu'on allait l'utiliser devant la défense. C'est un joueur technique, un joueur élégant.
Ouais, pour les petits matchs de Ligue 1, quoi.
Dans la première demi-heure, moi je l'ai même trouvé plutôt pas mal du tout.
Et pourquoi il était pas mal, Daniel? Excuse-moi, je te coupe. Il est pas mal parce que le bloc Lensois était positionné en bloc médian, en bloc bas, sans aucune pression. C'est facile pour Beraldo de jouer de face. Il est face au jeu. Voilà.
Quand il est dans un fauteuil, sa technique lui permet d'être bon. Maintenant, lui aussi. Pareil, ça commence à faire un petit moment qu'il est au PSG. Lui, on pourra pas se contenter d'un joueur pas mal. Et de la même façon, le projet de Lucas Digne, je reviens au PSG parce que je vais habiter en région parisienne, je vais habiter à Paris, je demande pas d'augmentation de salaire, tout va bien, machin. Oui, enfin, c'est mon gars. Si t'es venu pour faire du shopping, visiter Paris, que tu connais en plus, c'est une chose. Mais si c'est pour faire le match comme tu le fais ce soir, ou si t'es venu en pré-retraite, ça va pas coller non plus, parce que là, ce que tu fais sur le premier but, et je lève le bras et je sais pas où je suis placé, pour regarder l'action, vous voyez sa passivité, c'est flippant. Là c'est pareil, il y a des joueurs, le PSG peut pas se contenter de ça. Le dossier le plus important à mon sens, c'est celui d'Akliouche. Lui, on a dit il y a 4 jours, Max, on était ensemble, je crois avoir employé ces mots en disant, pour l'instant je ne vois pas de maillot trop grand pour lui, de costume trop grand. Ce soir, bon, évidemment il y a cette occasion manquée qui est très importante. Maintenant, néanmoins, il va falloir qu'il accélère un petit peu. Je trouve que dans les transmissions, il va pas encore assez vite dans le rythme PSG. Il faut aller plus vite. Et il va y avoir le positionnement, parce que Luis Enrique, c'est une exigence terrible dans la faculté pour les joueurs à bouger sur le terrain, à être parfois avançante, parfois sur le côté. Et là, avec Liouche, c'est ça, il va falloir qu'il s'y fasse. Alors, on va voir de quelle façon il sera utilisé. Est-ce que il va être encore titulaire dès le premier match de la saison dimanche prochain contre Rennes? Est-ce que il va devenir remplaçant? Je sais pas trop, mais en tout cas lui, il va falloir vraiment qu'il monte d'un cran assez vite. Même si je pense que tout le monde sera patient et au PSG et même Luis Enrique, ouais, et voudra pas lui mettre trop de pression. Mais c'est plus lui qui va devoir bosser pour être au diapason de ce qui se fait au club, quoi. Et ce qui se fait au club, c'est la polyvalence, de la rapidité dans l'élaboration du jeu, les gestes techniques, tout ça. Parce qu'avec lui, forcément, on va attendre beaucoup plus de lui que les autres.
On rappelle que sur la compo, il était positionné en faux neuf, comme on dit, lorsque c'est Dembélé titulaire, et qu'il a beaucoup alterné avec Doué en première période.
Parce que c'est très Luis Enrique, finalement le système est hybride, les joueurs commencent à une position et ça tourne beaucoup. Moi j'ai toujours un petit problème avec Akliouche, qui a quand même un certain âge, il est plus tout jeune, il a 24 ans, c'est un peu son manque d'impact physique, surtout pour jouer sur les côtés. Lorsqu'il signe au Paris Saint-Germain, je trouve que c'est une bonne solution, parce que ça lui permet aussi de pouvoir jouer un peu plus dans l'axe, un peu plus axial, et je pense qu'à terme, en tout cas, je le vois plus évoluer dans l'axe que sur les côtés. Alors évidemment.
Et l'axe de quoi? L'axe de comment?
Eh ben alors soit en faux numéro 9, comme je te l'ai dit, soit un peu plus bas.
C'est ça, pas son poste, tu parlais d'impact physique, s'il joue en faux 9.
Non, mais quand il joue en faux 9, quand il joue en faux 9, c'est parce qu'il vient décrocher entre les lignes, et justement, il a cette possibilité de pouvoir jouer dans l'axe du terrain. Alors attention, en Ligue 1, tous les jours, il peut jouer sur les côtés. Il a joué en équipe de France, il a été très intéressant aussi en jouant sur un côté. Donc là n'est pas le problème. Mais pour revenir par rapport à son adaptation, je ne suis pas trop inquiet. C'est aussi un step supplémentaire supporters aussi pour lui. Hein. Il arrive d'un club Monaco qui maîtrisait bien un double champion d'Europe avec beaucoup de concurrence.
Ah, là, c'est le petit nouveau, en effet.
Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une attente sur lui et puis surtout que sa préparation a été tronquée, comme tous les internationaux français. Donc voilà, je vais lui laisser du temps. On en a parlé, tu l'as dit, Daniel, un peu plus tôt. Je ne suis pas trop inquiet par rapport au cas Cliou. Je suis un peu plus inquiet sur les axes à améliorer de l'équipe du Paris Saint-Germain, notamment ce backup d'arrière centraux, je l'avais dit, parce que demain, tu te rends compte que si Marquinhos n'est pas prêt à jouer les gros matchs, ce qu'il y a derrière, c'est compliqué. Et c'est ni Zabarni, ni Veraldo qui est en mesure de pouvoir remplacer un joueur comme Marquinhos. Tous les ans, toutes les saisons, on est en train de dire ça est Marquinhos à sa dernière saison. Et finalement, tu te rends compte qu'il est remplaçable.
On va en parler avec Pierre qui a patienté, que je remercie au 32-16. Salut Pierre, bienvenue dans l'After.
Bonsoir Simon. Bonsoir Maxime et bonsoir Daniel.
Salut.
Simon, il était sur le terrain,
il est plus fatigué que moi ce soir. Il a fait un gros match. Supporter parisien, pas trop déçu après cette rencontre.
Non, pas déçu. C'est pas non plus pas catastrophique. Hein. Après, pour juste en aparté, pour être parce que j'écoute depuis tout à l'heure sur le débat du carton jaune de Daniel avant la pub. Je vais faire un petit hommage au regretté Roland Courbis. Pourquoi pas mettre un petit carton orange 10 minutes dehors là-dessus, parce que c'est quand même plus qu'un carton jaune, mais effectivement le carton rouge est
ça me plaît moins, ça fait trop petite révolution dans les règles du foot et tout.
Si ouais, mais tu vois, ça se fait en amateur depuis des années, et c'est cohérent, le mec il sort 10 minutes, l'équipe...
Ça fait trop de changements, déjà on a bouffé la pause pub pendant la Coupe du Monde, là...
petit aparté.
Et Jean-Louis Leca, si je peux me permettre, Jean-Louis Leca à la mi-temps du match qui a attrapé l'arbitre, un pignard, en lui disant qu'il avait le don de tuer les matchs.
Oui, mais après Jean-Louis Leca...
Voilà, on le connaît.
On l'a dit, il s'était fait remarquer pour Lens Toulouse, il avait refusé de vérifier...
Pour en revenir sur le match, oui, je suis d'accord aussi avec lui, Daniel, d'ailleurs. Pour en revenir un petit peu sur le match, en fait, on a eu un match sans relief, hein, pour un trophée plus ou moins sans relief. Moi, j'ai écouté un petit peu Daniel aussi cette semaine sur le trophée des champions et je suis plutôt sur la même ligne que lui. Le faire déjà à Bollard sur un lancer de pièces en l'air... ça n'a pas de valeur et du coup on a eu un PSG, en fait on a eu un match de Ligue 1.
Le fait que ça joue à Lens c'est pas tant que ce soit gênant, c'est la façon dont ça se fait. Si on décide demain que dans la règle le trophée des champions se joue chez le vainqueur de la coupe, où on dit chez le vainqueur du championnat, mais en fait que quelque chose soit dit, tu vois, qu'on n'arrive pas en disant tiens, jette une pièce et on le décide, c'est ridicule.
Non mais Daniel, ce qui fait par exemple, tu vois, que le Community Shield est très très important en Angleterre, c'est qu'il se joue à Wembley chaque année. Chaque année, c'est le début du championnat.
Je crois que c'était à Cardiff cette année, non? Pour le coup. Je me demande si aujourd'hui c'était pas à Cardiff.
Ouais,
Il me semble. Simon, si t'as un coup d'œil à acheter, je pense que ça serait clairement plus logique d'être sur un terrain neutre.
Voilà, mais il faudrait faire ça dans un seul stade.
C'était au Principality Stadium de Cardiff, en effet, Daniel.
Si tu veux rendre le truc un petit peu plus prestigieux, tu le fais dans un seul stade neutre. Une semaine à chaque fois avant le début de la saison, premier match de la saison.
Pour que ce soit prestigieux, il faudrait qu'il y ait une politique qui soit menée à la Ligue. Il faudrait qu'il y ait un président de la LFP.
On a un
maître nageur piscine, sauveteur, tout ça on a, mais on n'a pas de. on n'a pas de boss à la LFP.
Là, on peut partir sur de grands.
Vraiment, si tu veux savoir comment entretenir ta piscine, quel genre d'eau, tu sais, il faut mettre les petites graines là pour éviter ça. Tu peux demander ça.
Le football est dirigé par des gens qui ne connaissent pas le football et qui n'aiment pas le football. Là-dessus, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. Après, pour en revenir,
le président de la LFP, il est supporter du PSG quand même. Enfin, il était pour l'OM il y a 10 ans, et puis maintenant il est pour le PSG. Enfin, il est variable.
Donc, là où est-ce que ça gagne, quoi?
C'est ce que je dis, il n'aime pas le football. C'est une girouette.
Oui.
Non, mais pour en revenir au match, voilà, donc on a vu un match de Ligue 1 du mois d'août au mois de décembre avec un PSG suffisant en se disant que sur les 20-25 dernières minutes, si tu accélères un peu, tu vas gagner. Sauf que,
une fois. Mais ils ont accéléré les occasions, tu peux pas dire ça, parce que les occasions qu'ils ont eues, sauf qu'ils ont été très maladroits, mais ils ont bien joué quand même.
Laisse-moi terminer, arrête de me couper. 9 fois sur 10, ce match-là, le PSG va revenir. Et bah là, c'est pas passé. Et, mais comme en Ligue 1, comme on a l'habitude de le voir de août à décembre, avec un PSG qui ronronne, qui n'a pas de, vraiment d'occasion, qui tire beaucoup, mais qui n'a pas d'occasion franche.
Enfin, Pierre, en première période, je, là, c'est moi qui te coupe. En première période, le PSG a mis de l'intensité, ils sont allés chercher les Lensois de Préau. Il y a la frappe de Gvara, il y a l'occasion d'Akluc, il y a la transversale de Doué. Tu peux pas dire que le PSG ronronnait en première période. Ils ont manqué de réussite. Et que l'on se mène à la pause, c'est un miracle.
C'est plus la deuxième période.
Je note et ça me ramène, si vous permettez, ça me ramène à un truc que je disais cette semaine, au moment de la Supercoupe. Max, tu t'en souviens, je dis, enfin, le supporter du PSG aujourd'hui, il est tellement repu de succès et de victoire que ce soit la Supercoupe, bon, si tu la gagnes, t'es très content, machin, ok. Et le trophée des champions, si tu la gagnes, t'es content, ok. Mais si tu la perds, en fait, aujourd'hui, les supporters du PSG, ça les intéresse plus, ouais, ces matchs-là. En fait, ouais, ils sont vrai. En recul. Sur la Ligue 1, ils sont en recul. Sur ces trophées-là, ils sont en recul. Maintenant, c'est juste Ligue des Champions. C'est un choix,
c'est logique, hein, quand t'as l'habitude d'aller dans des étoiles Michelin, restaurant, c'est plus difficile de partir au McDo, Daniel.
En gros, il n'y a plus qu'un seul restaurant maintenant, Max. Toi, tu ne fréquentes qu'un seul resto, toi, tu fais que du 3 étoiles et t'as pas envie de manger ailleurs.
À croire que les Parisiens, c'est
plus difficile. Tu peux pas faire une vie comme ça non plus. Tu peux pas t'en foutre de tout au prétexte qu'il n'y a que le caviar qui t'intéresse, tu vois.
D'autant plus qu'on a suffisamment loué cet état d'esprit, cette volonté carnassière de tout remporter, quel que soit
le trophée. Ah non, mais attends, les joueurs et le club, c'est pas du tout ça. Moi, je te parle des supporters, Simon.
Oui,
les
joueurs,
tu le vois bien mercredi, ils avaient la dalle de gagner le trophée. Et moi, ce soir, je maintiens que ce soir, ça les emmerde d'avoir perdu. Eux, ils voulaient le gagner jusqu'au bout. Ils ont eu les occasions. Luis Enrique, il a fait les changements. Il a tout fait pour le gagner, le match. Moi, je parle des supporters.
Oui, oui.
L'écosystème PSG autour, c'est Ligue des Champions. Bah là, on y est, notre cœur est là, les joies, les peines, tout ce que tu veux, mais pour le reste, ouais, ils sont tous un peu désabusés. Et bon, voilà, c'est juste un constat que je fais.
Je suis pas tout à fait d'accord.
J'ai même pas de jugement
Daniel
là-dessus, en plus.
Je suis pas d'accord avec Daniel, moi.
T'es pas d'accord,
toi, t'es déçu d'avoir.
Tu vas pleurer ce soir, ça va t'empêcher de dormir.
Non mais Daniel, ça fait 26 ans que je suis supporter du PSG, donc je suis d'accord avec toi sur la Super Coupe d'Europe et le trophée des champions, parce que ces trophées-là, moi je suis à l'ancienne, ces trophées-là j'en ai rien à foutre depuis que je suis gosse.
Donc Daniel, tu t'en fous d'avoir perdu ce soir.
Ah, mais par contre, la Ligue 1 et la
Coupe de France. Ouais, la Ligue 1, oui, mais la Ligue 1, tu sais que tu la gagnes les yeux fermés. Il y avait un peu de suspense.
Daniel, même la Coupe de France, si je la perds, que l'année dernière, quand on perd contre le Paris FC, j'ai les boules. Parce que
c'est des trophées qui sont difficiles à gagner,
moi,
c'est pour ça.
Les trois trophées. Après les trophées qui peuvent jouer sur un match, c'est un coup du sort. Voilà, Lens ils marquent sur un coup du sort et bravo à eux, ils ont fait le match.
Tu veux dire c'est match de gala quoi.
C'est des matchs de gala, exactement.
Bah, c'est un match qui était plus important pour le Racing Club de Lens que pour le PSG, même si Paris veut tout gagner.
Oui, parce que c'est vrai, Pierre, mais bon. Tant mieux pour eux. Franchement, tant mieux pour eux. Moi, j'aime beaucoup Lens. C'est un club qui se construit de la manière dont moi j'aime le football. Donc, tant mieux pour eux. Ils ont gagné, ils ont fait le match qu'il fallait. Ils marquent sur un coup du sort et derrière, ils ferment le jeu parce qu'ils sont à 10. Et tant mieux pour eux. Franchement, après le PSG, comme j'ai dit, là, de août à décembre, tous les supporters du PSG, on va un peu se faire chier. On va un peu voir des expérimentations de Luis Enrique, même s'il y a des recrues. On va voir des matchs sans relief. La Ligue 1, je vais un peu m'en cogner jusqu'à décembre. Et puis, à partir de décembre, on va regarder un petit peu le football, quoi. Que ce soit en Ligue 1, parce qu'on aura certainement un ou deux prétendants qui seront coude à coude avec nous et on va devoir mettre un petit peu le bleu de chauffe. Mais sinon, d'ici là, comme chaque année, on va se faire chier. Donc, moi, je parle en tant que supporter du PSG. Après, pour les autres, mais tant mieux pour eux. Moi, j'ai adoré le match qu'a fait Lens. C'est tout à fait cohérent. Lens, ils ont joué avec leurs armes. Ils méritent en plus de marquer un deuxième but qui a arrêté sur un.
Il y a quand même un petit peu de condescendance dans ce que tu dis, mon cher Pierre.
Non, pas trop. Moi, je le trouve assez.
Les petits Lensois, qui marquent sur un coup du sort. Excuse-moi, Pierre, il y avait un trophée à gagner. Daniel l'a rappelé. Paris a essayé de remporter cette rencontre. Bon,
moi, ça m'ennuie de banaliser justement. C'est un trophée qui arrive très tôt dans la saison. L'équipe n'était pas forcément prête. Mais attends, Daniel. Il ne faut pas oublier. Alors, je comprends que la Ligue des Champions est beaucoup plus intéressante qu'un trophée des champions, qu'une Super Coupe d'Europe. Mais attention, ça reste un trophée. Le Paris Saint-Germain est dans un cycle exceptionnel. Il faut en profiter. Tu n'es pas à l'abri.
Mais personne n'a dit qu'il ne voulait pas le gagner. Mais Max, laisse les joueurs du PSG de ranger son armoire comme il a envie.
On est en train de me dire que ça l'intéresse pas. Alors si ça t'intéresse pas de pouvoir gagner le final, moi je comprends pas.
Mais le trophée des champions, c'est l'étagère du bas. Il a le droit de se foutre un peu quand même.
En tout cas, c'est la première fois que le PSG perd le trophée des champions en qualité de champion de France, parce que en 2021, la dernière fois que Paris l'avait perdu, c'était face à Lille, et Paris s'y présentait en tant que vainqueur de la Coupe de France. Très rapidement, Pierre, parce qu'il faut lâcher la balle et il faut qu'on parle de la FFF derrière.
Non, juste pour préciser, il n'y a absolument eu aucune condescendance, et je l'ai précisé, moi, le trophée des champions, quand on le perd, je crois, en 2008 contre Lyon, avec une équipe encore avant les Qataris, je m'en cognais aussi. C'est pas un trophée, et je pense que beaucoup de supporters de football en France sont connus du trophée des champions.
Ça veut dire ça veut dire qu'on n'a pas réussi à instaurer une tradition autour de ce trophée qui en Angleterre est important, alors que chez nous ça fait un petit peu match de gala. Mais ça c'est de la faute à la LFP. On a dit cette année que encore la façon dont ça s'est fait l'année dernière, ils l'ont placé n'importe quand dans la saison, quand Nasser a décidé de passer un coup de fil à Vincent Labrune, ils l'ont mis au mois de janvier au Koweït. Cette année, bon, on a
raconté comment ça s'est passé, délocalisé,
ça termine à Lens et tout. Excusez-moi, vous avez noté que ce soir, enfin, trophée des champions, donc LFP, c'est le trophée, c'est normalement ça doit être extrêmement valorisé par les LFP. Vous avez vu le président de la LFP pour remettre le trophée ou pas ce soir?
Non, je ne l'ai pas vu.
Ben non, il n'est pas là. Vous mesurez le truc ou pas? Ouais.
Bon.
Mais sans déconner, le mec, il vient même pas. Le gars, il n'est même pas là.
Ça manque un petit peu d'identité.
On va dire que je fais des fixettes ou. Mais enfin, le mec, il n'est même pas là.
Bon, il y a peut-être mieux à faire, c'est vrai.
En effet.
Mais vous n'êtes pas choqués.
C'est comme si le marié ne se présente pas au mariage. Non, mais.
Le mec, il vient pas. Le mec, il n'est pas là.
Je pense que le manque d'attention qu'il y a aussi envers ce trophée des champions.
Il est devant la télé, peinard, à Saint-Rémy, au bord de la piscine, tranquille.
Le Paris Saint-Germain roule tellement sur cette compétition que ça en devient presque ridicule.
Et alors, le patron du foot français doit être là pour remettre le trophée.
Il aurait pu faire acte de présence. On est d'accord, Daniel. Je remercie Pierre d'être.
À moins qu'il ne vienne pas dans la maison de son ennemi Joseph Ogourian, ce qui est
c'est
peut-être
vrai qu'ils sont pas copains tous les deux.
Également possible. Ah. Quand on connaît la classe de cet homme-là, ce serait pas étonnant.
Merci à Pierre d'être venu partager sa passion du Paris Saint-Germain, le PSG, qui a donc cédé son trophée des champions qu'il détenait depuis 2021. Je vous ai dit que c'est la première fois que Paris le perdait en qualité de champion sous l'ère QSI. La dernière fois, je vous l'ai dit. Donc
oui, il y avait un PSG qui existait avant, Simon. Aussi.
Voilà, exactement, bien sûr. Et je ne suis pas prêt, moi, de l'oublier, mon cher Daniel. Tu restes évidemment avec nous en compagnie de Maxime Chanot dans un instant. Tu vas nous parler de ce qui te tracasse du côté de la Fédération Française de Football. Vous ne bougez pas, on est de retour dans 41 secondes précisément.
RMC jusqu'à minuit, l'After Foot.
Simon Dutin.
La dernière ligne droite de l'After en ce dimanche 16 août. L'After est là tous les soirs de l'année. Et donc, évidemment, en été, on a largement débriefé ce trophée des champions et la victoire du Racing Club de Lens. 1-0 sur sa pelouse de Bollard face au PSG. Un but de Florian Thauvin, le désormais capitaine des 100 heures, qui a été élu homme du match sous les yeux de Zinedine Zidane, présent dans les tribunes, le nouveau sélectionneur de l'équipe de France. Daniel Riolo, Maxime Chanot pour cette dernière ligne droite, je disais. Daniel, tu souhaitais qu'on revienne sur cette petite musique qui monte autour de la Fédération Française de Football, où des membres du COMEX, le comité exécutif, on commencerait à serrer un petit peu les dents autour de certaines positions du patron Philippe Diallo, notamment ce qui concerne le patron de la FIFA.
En fait, il y a commencé à avoir de légers soucis parce qu'évidemment, il y a une unanimité totale autour de la nomination de Zidane. Évidemment, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Néanmoins, vous pouvez comprendre que certaines personnes auraient aimé être informées de toutes les décisions. Ça, pour le coup, c'est normal. On a le droit de tous être d'accord pour que ce soit lui qui soit sélectionneur, sans pour autant donner l'impression qu'il est sélectionneur et patron de tout en même temps, genre que le président de la FFF accepte tout. Moi, j'ai trouvé, par exemple, que le staff était immense.
Il y a du monde.
Il y a du monde, quoi. 22 personnes, plus peut-être une boîte extérieure pour les datas. Enfin bon, et que rien n'est validé par personne et que, en gros, le président de la 3F soit là comme une caisse enregistreuse. Moyen. Bon, malgré tout, l'image de Zidane emporte tout. On est tous contents. Pas de problème. En revanche, au moment où éclate la crise là, du foot international, qui a un peu surpris tout le monde quand même, hein, parce qu'on ne s'y attendait pas vraiment, post-Coupe du Monde, ça devait être très calme. C'est l'autoroute vers les élections, parce qu'il n'y a pas de candidat en face de Gianni Infantino. Donc, il y allait tout droit. Et puis, il a eu cette idée catastrophique là, devant le départ de la FIFA. Bon, bref, je ne refais pas cette histoire-là. Quand tout le monde a commencé à se positionner, qu'on a vu l'Europe monter au front, Seferin, suivi par beaucoup de fédérations, qu'on s'est demandé un petit peu comment les uns se positionnaient, la CONCACAF, l'Asie est venue, bon, l'Afrique très vite a pris position dans l'autre sens, ok. Mais nous, en fait, parce qu'on regardait un petit peu partout, on était là, on observait, là, ce continent, ça fait quoi, là, il se passe quoi, là, il se passe quoi. Mais en fait, et nous, notre patron, il dit quoi? On n'entend pas notre patron. Et là, ça commence à agacer certaines personnes. Moi, perso, bah, ça m'agace aussi, parce que j'aimerais bien savoir ce qu'il pense, notre président de la 3F. Alors, soyons quand même honnêtes, il est quand même sorti du bois pour dire que c'était pas une bonne idée. Enfin, il a trouvé une formulation un peu bizarre pour dire que c'était pas une bonne idée. Et puis, paraît-il, il a été un peu poussé par le pouvoir politique pour s'exprimer à ce sujet, parce que peut-être avait-il prévu de rien dire, ce qui aurait été préoccupant. Mais le problème, c'est qu'il y a des élections qui arrivent. Et ok, tu critiques le projet, mais tu vas voter pour qui? Parce que si tu votes Infantino, bah, à mes yeux, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème si tu votes Infantino. C'est bien beau d'aller critiquer tous les pays, toutes les fédérations, les Argentins qui vont se coucher pour aller voter Infantino, la grande majorité des pays africains, tout ça. Mais nous, si notre président à nous va voter pour ce Gugus, bah, c'est la honte, en
mais
fait.
Mais est-ce qu'on est sûr qu'il y a beaucoup de présidents au sein de la Confédération européenne qui roulent avec Infantino?
Écoute, pour l'instant, on a eu une prise de position de l'UEFA, avec visiblement beaucoup de gens qui sont derrière Seferin. Mais là où tu as raison, si je comprends ta question, c'est que va quand même falloir, puisqu'on va vers l'élection dans quelques mois, que tout le monde sorte du bois et dise clairement quelles sont leurs intentions. Parce que c'est bien beau de dire ouais le projet, si c'est là et tout, mais si c'est juste tu critiques le projet, mais dans la foulée tu votes pour lui, bah c'est ridicule, non?
Oui, d'autant qu'un peu de clarté ne ferait pas de mal. La fédération calédonienne de football a soutenu Infantino, alors que bon, elle dépend quand même de la fédération française de foot.
C'est un vrai problème. Alors je sais pas, peut-être en Nouvelle-Calédonie, on leur a promis des sacs de ballons et ils vont voter Infantino. Mais enfin, c'est lamentable, quoi. C'est lamentable. Tu peux pas aller après ce qui s'est passé. Tu vas encore voter pour ce type-là? Moi, je veux bien qu'il arrose partout et que ça lui permette d'être élu, mais si notre président à nous, enfin en tout cas, ce qu'on voudrait savoir, c'est Philippe Diallo, tu votes pour qui et pourquoi tu votes pour lui?
Oui.
Si Max, tu critiques son idée,
ça a tout le sens, j'ai bien compris.
Moi, je veux même pas critiquer son vote. T'es libre, tu fais ce que tu veux, mais explique-nous quand même. Explique-nous ce que tu lui trouves. Explique-nous pourquoi tu trouves que ce type est formidable. Type qui, par ailleurs, a mis un couteau dans le dos de la plus grande légende du football français, par ailleurs.
Ouais, bah ça, on l'oubliera jamais.
Bah non, mais mine de rien, c'est pas rien. Je veux dire, normalement, n'importe quel président de la 3F, par principe, au vu de ce qui s'est passé avec Platini, déjà, tu devrais être contre lui. Parce qu'en fait, il a tué ton football, une de tes légendes, déjà, tout simplement. Rien pour ça, tu devrais être contre lui, par principe. Bon, bref, peu importe. Là, maintenant, Infantino, Philippe Diallo, tu nous dis qu'est-ce que tu vas faire, et si tu as envie de voter pour lui, bah, dis-nous pourquoi. C'est quoi? C'est son programme? Tu le trouves sympa? Je sais pas, toi aussi, t'as promis des sacs de ballons? Je sais pas, dis-nous pourquoi. Ouais, on a envie de savoir. Et là, visiblement, je suis pas le seul à me poser cette question, parce que au COMEX, ça commence à grincer un peu.
Et on peut le comprendre, en effet, que ça agace un petit peu certains membres de la 3F, la Fédération Tahitienne de football, tiens, également, qui soutient la vision de Gianni Infantino.
C'est que les fédérations bancaires.
Voilà, donc peut-être qu'il faudrait
la vision.
Oui, ce sont les mots employés, donc peut-être qu'en effet, il y a une nécessité à clarifier la position de la 3F dans ce dossier. Max, évidemment, j'imagine que tu es un petit peu sur la même longueur d'onde, ça ferait pas de mal de se détacher un petit peu quand même d'un personnage très sulfureux devenu très contesté.
Surtout vis-à-vis de Diallo, c'est vrai que ce qu'on lui reproche, si j'ai bien compris, c'est un peu le double jeu, quoi. C'est pas d'être honnête et de dire exactement où est-ce qu'il se positionne. Et j'ai cru comprendre que ça faisait un peu grincer les dents l'UEFA. Et ouais, je l'entends, hein, d'autant plus que je pense que s'il y a bien un personnage sulfureux là depuis plusieurs années, notamment avec ce qui s'est passé à la Coupe du Monde, c'est bien Infantino. Donc c'est vrai que Diallo a tout à gagner, en tout cas,
de prix complètement minable que Infantino a remis à Trump, qui nous explique s'il a trouvé ça bien, pourquoi il a trouvé
le
ça
prix
bien.
De la paix FIFA, enfin, c'est ça.
Après, pour revenir à Diallo très rapidement, moi, Daniel, pour avoir suivi la conférence de presse avec l'arrivée de Zidane, moi, j'avais du mal à comprendre l'admiration qu'avait Diallo. Alors, pas du mal à comprendre, mais quand t'es président d'une fédération, que t'es censé être le patron,
oui, voilà,
manière dont il regardait Zinedine Zidane.
T'étais pas un enfant avec un nounours,
exactement,
quoi.
J'ai l'impression que c'était le cas.
C'était un enfant, on lui avait donné un ballon à la bête. Voilà,
c'est exactement ce que j'allais dire. Et là, il a perdu énormément de crédibilité.
Zidane sur le banc des
Coupes de France. C'est vrai qu'il a perdu énormément
de crédibilité. Ah non, mais c'est président de la Fédé, quoi.
Moi, à mes yeux, il a perdu beaucoup de crédibilité à ce moment-là. S'il n'est pas en mesure de pouvoir tenir son rang, et c'est encore une affaire supplémentaire avec ce qui est en train de se passer là sur Infantino et Diallo. Je pense que Diallo est plus en plus.
Il y a des gens que ça commence à saouler, ça et qui ont réellement envie de savoir quelles sont les intentions de Diallo.
Et du coup, concrètement, il y a eu des prises de bec dans les couloirs, dans les bureaux de la Fédé, ça s'engueule un petit peu.
Pour l'instant, on est à des discussions où on a envie de savoir, Monsieur le Président, dites-nous. Voilà. Bon. Mais je pense que ça va être un sujet dans les semaines et mois à venir.
Peut-être que s'il y avait d'autres candidats, qui il y a pas un membre de la Confédération européenne qui va se présenter face à une
Pour l'instant, il n'y a pas de vrais candidats.
Il y avait une rumeur Seferin, le président de l'UEFA, mais qui a dit qu'il n'y avait pas.
Non, mais il y a plein de fédés il y a des choses qui sont quand même très bizarres, puisque on a eu rendez-vous Nasser Al-Khelaifi, Seferin, visiblement pour critiquer Infantino. Mais par ailleurs, on sait que le Qatar fait double jeu, parce que la fédération de foot du Qatar soutient Infantino. Ouais. Et Nasser, il fait quoi dans l'histoire? Il est avec qui? Il mange avec Seferin, il mange avec Infantino, il mange avec les deux. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de double jeu. Qu'on nous explique un petit peu, quoi. C'est où, patron de la FIFA, c'est quoi? On tape les mains, on applaudit, on fait vote à main levée, et puis on dit c'est quoi, c'est formidable. Je sais pas, il y a peut-être un programme,
il y a des choses,
on a envie de savoir qu'est-ce que tu veux faire pour le développement du football quand même.
Jeu d'échecs.
Et on a envie de savoir un jeu d'échecs. Pourquoi Diallo le soutient ou ne le soutient pas.
Bienvenue dans le football moderne, malheureusement.
Est-ce que Gianni Infantino ira jusqu'à l'élection? Peut-être qu'il est tellement un petit peu dans la sauce que.
Ah ouais, parce que toi tu le vois gêné par la sauce.
Pour l'instant, il n'y a personne en face, mon cher Daniel. C'est-à-dire que. Souviens-toi, avec Blatter, ça a duré des mois et des années.
Mais le gars, il a pris un boulard monstrueux. N'oublie pas que ce gars-là, pendant 10 ans, c'est le gars qui ouvrait les boules.
C'était monsieur tirage au sort.
Maintenant tu lui donnes un pouvoir immense avec toutes les ailes qu'on lui donne, mais il a brillé le mec.
Souviens-toi Daniel, à l'époque tout le monde adorait Gianni Infantino parce que c'était signe de
tirer les boules. Il ouvrait bien les boules.
Il n'y avait pas plus redoutable que lui pour.
Non mais en fait tu sais pas pourquoi je pense à ça, parce que aujourd'hui j'ai vu la deuxième partie, je suis en plein dans le doc de Mourinho là, et il repasse des vieilles images de Ligue des Champions, et à un moment il y a une image du tirage au sort Inter-Barça, l'alpha match de 2009, et hop, je vois la boule qui s'ouvre, et hop, je vois la grosse tronche d'Infantino qui ouvre le papier. Il avait des cheveux à l'époque. Il était très bien.
Il était bien tout court.
Et à cette époque-là, pour
les tirages au sort, il était bien. Enfin, de toute façon, c'est un destin hors norme. Ce mec-là devait être un secrétaire, mais.
Exactement. Quelle trajectoire. Et puis, à cette époque-là, il attirait la sympathie de tout le monde. Samuel Vasselin, notre excellent producteur, me souffle que désormais, il a la boule à zéro. Voilà. Ce sera le mot de la fin.
Vous pouvez terminer sur ce jeu de mots, je pense.
Tu vois, en plus, le chrono nous indique qu'il est temps de terminer. Donc, tu vois, ça tombe très bien. Merci beaucoup, Daniel.
Ciao, les amis, à bientôt. Bye bye.
Ciao à tous. L'After revient demain. D'ici là, vous restez sur RMC. Le sport, l'info, le débat ne s'arrête jamais. Salut.
RMC, l'After Foot.